Salut à tous et à toutes et bienvenue à Point de vue. Aujourd'hui, les savoirs traditionnels inoues de la Basse-Côte-Nord voyagent jusqu'à Genève.
Ils ont parcouru tous ces territoires-là à pied, en canot, en raquette. Ce sont des maîtres de la forêt. Tout le monde pourrait apprendre des choses de cette culture-là.
La nouvelle PDG du port de Québec se voit remettre une contravention pour écocide.
La poussière rouge de 2012, c'est de quoi qui est dans l'imaginaire de Limoilou. Tu le sais quand tu vas aller à Limoilou que tu vas avoir des problèmes respiratoires, littéralement.
Il y avait beaucoup de monde à la fête de l'Aïd à Winnipeg. Gaël Mpoyo était sur place pour travailler et pour résister au miroitement du buffet.
Nous avons le plaisir de partager notre joie avec la communauté, intégrer nos enfants dans ces traditions, dans ces coutumes, les faire participer. C'est très important pour nous de léguer cet héritage.
Élection fédérale 2025, la jeunesse s'exprime dans une consultation pan-canadienne. Et les funérailles de l'écrivaine acadienne Antonine Maillet se tiennent ce week-end. Un Français relate sa rencontre avec elle en France.
Et elle a dit avec un peu d'hésitation: écoutez, il y a ce jeune homme qui me propose de faire un tour dans la Provence. Je vais partir avec lui.
Bienvenue à Point de vue, l'info locale, partout au pays.
Vous êtes à l'antenne de Point de vue. Écoutez tous nos reportages sur fréquenceinfo.ca.
Mesdames, Messieurs, bienvenue à Point de vue. Boris Chassagne avec vous. Je vous accompagne pour la prochaine demi-heure. Cette semaine, on lance l'émission au Québec pour vous parler du photographe Serge Jauvin, qui, dans les années 1980, a passé une année complète dans la communauté Innu d'Unamen-Chipu. Son but était alors d'illustrer la transmission des savoirs traditionnels Innu en photographiant le quotidien d'un couple, celui d'Hélène et de William Mathieu Mark. Près de 40 ans plus tard, son ouvrage intitulé Aitnanipan, c'est ainsi que nous vivons, est publié et rayonne jusqu'en Suisse. L'auteur vient d'ailleurs tout juste du Salon du Livre de Genève, un livre qui contient un journal, des photos, des transcriptions d'entrevues et même des dessins d'enfants. Frédéric Lévesque, sur la côte nord du Québec, a bien sûr voulu en savoir plus, d'autant qu'on soulignait le 31 mars la Journée nationale des langues autochtones et l'anniversaire de la fondation de la réserve d'Unamen-Chipu en 1956. Alors Frédéric plonge dans le récit du livre de Serge Jauvin, en compagnie de l'auteur, mais aussi avec la fille du couple qui a tant inspiré le photographe, Geneviève Marc. C'est elle qui lance ce reportage.
Je suis fière de ma culture, je suis fière de mon identité que mes parents m'ont transmise.
Le lien entre le photographe et la famille Marc se tisse à la fin des années 1970, comme l'explique Serge Jauvin.
En 81, je travaillais sur un projet pour illustrer les activités de chasse en forêt. Et là, j'avais fait un petit séjour en forêt avec William. Il m'avait amené voir ses pièges à castors, puis tout ça. Puis je le regardais faire, puis au retour, je me posais la question. Tu sais, je fais juste passer. Il faudrait que je puisse vraiment passer beaucoup de temps, pouvoir vivre un cycle annuel complet pour vraiment pouvoir montrer toute la richesse de cette culture-là. Et puis, c'est l'année suivante que j'ai entrepris le projet d'illustrer l'année avec la famille.
Ce ne sont pas les premiers contacts que Serge Jauvin a avec le peuple Innu. La première communauté qu'il visite est celle de Mastoyatch, anciennement dite Pointe Bleue, dans la région de ce qu'on appelle le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il a ensuite visité plusieurs autres communautés comme celle de Pakwashipi, mais Unamen-Chipu demeure son coup de cœur.
Je me souviens que d'être arrivé à La Romaine en bateau, puis tout de suite, mon premier regard, quand j'ai débarqué à La Romaine, je me suis senti vraiment touché par cette communauté-là. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais il y avait quelque chose à cet endroit-là qui me captivait.
Serge Jauvin se définit comme un photographe avant tout. Originaire du Lac-Saint-Jean, il habite la Côte-Nord depuis les années 80. Lui et Geneviève Marc se connaissent depuis environ 50 ans. Geneviève Marc dit de Serge Auvin qu'il est comme un frère pour elle. Lorsque nous parlons de Aetna Nipan, c'est ainsi que nous vivions, Serge Auvin rappelle qu'il ne s'agit pas là de son livre. Il s'agit aussi de l'ouvrage de toute la famille Marc. Aujourd'hui, les parents de Geneviève Marc sont partis vers un autre monde pour reprendre ses mots. Ce recueil de photos est donc un legs important pour elle.
Oui, mes parents sont pas là, mais leur histoire est toujours là.
Dans la préface de l'ouvrage, on peut lire que l'objectif du recueil est d'illustrer la transmission des savoirs traditionnels innus de génération en génération.
Avec la famille Marc, avec Hélène et William, il y avait ce désir de transmettre. Il y avait ce désir de partager avec les leurs, mais aussi avec la communauté québécoise. Ils voulaient transmettre, ils voulaient montrer aux Québécois toute la richesse de leur culture et ils se sont servis un petit peu de moi, pas méchamment. Ils se sont servis un petit peu de moi comme un diffuseur, si on veut. Quelqu'un avec qui ils vont pouvoir transmettre ce savoir-là, ces connaissances-là. Parce que c'est des gens qui appartenaient à la dernière génération de ceux qui ont vécu le nomadisme. Ça veut dire qu'ils sont nés dans le bois. Et avant d'être adultes, ils ont toujours été en forêt, 365 jours par année. Ils ont tout parcouru, William surtout a tout parcouru le territoire jusqu'au Labrador, jusqu'à Goose Bay. Il marchait tout ça à pied avec son père. Alors, ils avaient énormément de choses à partager avec nous. Puis ils ont cru qu'ils pouvaient le faire avec moi. Puis ils m'ont autorisé à le faire.
Geneviève Marc nous parle de tous les enseignements de ses parents qui sont illustrés dans le recueil, comme la sagesse qu'elle retient de son père, l'artisanat et la cuisine de sa mère. Elle nous parle aussi de tannage de peau de caribou, de comment nettoyer et sécher la viande de bois.
Ma culture, j'aime ça, j'adore ça. Et je garde à mes parents. Je ne remercierai jamais assez. Aujourd'hui, c'est grâce à eux que je continue encore ma culture. Oui, je suis mariée avec un autochtone, mais mon identité est toujours là. J'avance avec ça.
Geneviève Marc travaille comme coordonnatrice aux loisirs et sports du Namenshipu depuis près de 20 ans. Elle nous explique que dans le cadre de son emploi, elle est amenée à poursuivre ce travail de transmission de la culture innue par le biais d'activités intergénérationnelles.
Que j'ai remarqué, la jeunesse ne sont pas encore au courant. Il faut en parler de notre identité innue.
Serge Jauvin nous raconte avoir toujours eu un lien fort avec la nature, avec la forêt. Une passion qui mène à la culture innue, selon lui.
C'est la culture de la forêt. C'est toute leur culture qui était bâtie à partir de leur relation avec la forêt boréale, avec tous les animaux qui l'habitent, avec les lacs, les rivières. Ils ont parcouru tous ces territoires-là à pied, en canot, en raquette. Ce sont des maîtres de la forêt. Tout le monde aurait intérêt à tout le monde pourrait apprendre des choses de cette culture-là.
La place du caribou est également centrale dans la culture innue et est documentée par Serge Jauvin. Aux côtés du récent projet de Nicolas Lachapelle titré « La chasse interdite » et réalisé avec la collaboration de la communauté de Pakwashipi, Aetna Nipan relance la question de l'importance de cette pratique traditionnelle devenue illégale.
C'est sûr que ça rentre en conflit avec toutes les mesures de protection du caribou qu'on retrouve en ce moment parce que le caribou est vraiment menacé. Le caribou est menacé et la culture des Innus aussi de la Basse-Côte-Nord est menacée. Le jour où les Innus n'auront plus de caribou ou accès au caribou, c'est toute leur culture qui va en prendre un coup.
La sélection des près de 1000 photos qui figurent dans l'ouvrage est le fruit d'un long travail. Les photos prises sur pellicule ont dû être numérisées puis soigneusement choisies. Geneviève Marc nous parle ici de celle qui est sa favorite entre toutes.
C'était une messe de dimanche. Quand ils ont monté dans le bois, ils écoutaient la radio. avec la radio rouge, là, qu'on appelle, qu'on peut attendre dans ma à réserve ou dans toutes les gens qui ont parti dans le bois, que mon père il priait le dimanche, il faisait des chapelets tout autour, puis chantait, puis toute la famille écoutait. Ceux qui étaient dans le bois avec mes parents, ils écoutaient. Ma mère avec un pipe, ils écoutaient. Même les enfants, même nous, tout le monde, on écoutait la prière du dimanche. C'est ça que j'aime beaucoup, la photo. Ça détend. Je regarde ça.
Serge Jauvin a profité de son passage en Europe pour partager son nouvel ouvrage au Musée de l'ethnographie à Genève et à la Bibliothèque du Musée de l'Homme à Paris. Il travaille actuellement sur une exposition qui prendra place au musée de Mastoyach à l'automne 2026 pour célébrer ses 50 ans de complicité avec le peuple Innu. C'était Frédéric Lévesque à Tête à la baleine pour l'IGL.
On se dirige vers la ville de Québec où des militants ont chaleureusement accueilli le 7 avril dernier la PDG du port de Québec, Olga Herrmann, en lui remettant une fausse contravention pour écocide. C'est que des membres de la coalition régionale Justice climatique et sociale et la table citoyenne Littoral Est demandent à la PDG du port d'abandonner son projet d'expansion. Ils s'inquiètent de la dégradation de la qualité de l'air au centre-ville si le projet de l'entreprise QSL et de transbordement de 250 000 conteneurs supplémentaires par an va de l'avant. S'il est approuvé, le camionnage serait amené à augmenter à travers la ville de Québec sur place Alice Zanetta à Québec.
Des membres de la coalition régionale Justice climatique et sociale, comme plusieurs citoyens, protestent ces derniers mois contre un nouveau projet de terminal de conteneurs au port de Québec par le promoteur QSL. Ils sont venus remettre ce lundi matin une fausse contravention pour écocide à la nouvelle PDG du port, Olga Farman. Une des porte-parole de la coalition, Anaïs Gousse.
On reste hyper vigilants, peu importe qui serait à la tête.
La PDG Olga Farman a récemment déclaré dans les médias vouloir rebâtir un lien de confiance entre les citoyens et le port. Une confiance abîmée par diverses controverses, comme les poussières de minerais de fer dans Limoilou, pour laquelle la compagnie Arrimage Québec, aujourd'hui appelée QSL, a été condamnée par la justice lors d'un épisode en 2012. Anaïs Gousse, de la coalition régionale Justice climatique et sociale.
C'était la poussière rouge de 2012. C'est de quoi qui est dans l'imaginaire de Limoilou. Tu le sais quand tu vas aller à Limoilou que tu vas avoir des problèmes respiratoires, littéralement.
La nouvelle PDG du port, Olga Farman, a aussi déclaré qu'un nouveau terminal de conteneurs, comme celui proposé par QSL, qui prévoit faire transiter par camion 250 000 conteneurs de plus par an à travers la ville de Québec, est nécessaire dans le contexte de la guerre tarifaire avec les États-Unis. Un argument que rejette la coalition régionale Justice climatique et sociale qui s'inquiète de l'augmentation de la pollution de l'air en basse ville. La membre de la coalition et porte-parole de la grande manifestation du jour de la Terre, Marie Maltais.
L'administration Trump nous donne une opportunité de voir une société ambitieuse aujourd'hui. Tu sais, ce repli-là, le fait qu'on puisse moins faire du commerce avec eux, le fait que ça nous mette plein de limites, c'est l'occasion justement de voir pour le futur, de refaire notre société au goût du jour pour donner à nos enfants un futur qui est plus viable aussi. Là.
Alors que l'administration de Donald Trump retire diverses mesures environnementales, dont certaines visaient à réduire les émissions de CO2 des automobiles et des centrales à charbon, la membre de la coalition régionale Justice climatique et sociale, Naëlly Bouchard-Sylvain, croit qu'il est urgent que le Québec revoie sa manière de consommer.
Le gouvernement Trump, juste le président, là, je pense pas qu'il y a un qui est comme entouré. Là, tu sais, je veux dire, il bafoue les règles environnementales, il bafoue tout le filet social qui est déjà plus ou moins très fragile. Aux États-Unis, t'es en train de le fragiliser encore plus. Là. Fait que je veux dire, c'est juste inquiétant. Fait que, au contraire, on doit redoubler d'efforts, à mon avis, pour combattre, refuser la pollution, que ce soit par QSL ou autre chose. On peut devenir aussi plus autonome, autarcique au Québec sans compter aussi sur comme la mondialisation puis le libre-échange. Ça, ça peut être ça, ces réflexions-là, plutôt que de dire on coupe tous nos liens puis on va exporter ailleurs. T'sais, je veux dire, l'exportation, c'est un problème fondamental. La surproduction, la surconsommation, fait que, on peut peut-être poser des questions plus à ce niveau-là que changer nos façons de consommer. Là.
Avant d'aller de l'avant, le projet de QSL devra être approuvé par le gouvernement canadien. Les élections fédérales qui sont actuellement en cours sont donc déterminantes pour la suite des choses. Anaïs Gousse, de la Coalition.
À l'onde des élections fédérales aussi, je pense que c'est important de remettre les enjeux environnementaux sur la table comme un enjeu prioritaire parce que c'en est un, là, ça fait partie des droits humains qui sont bafoués, puis des droits des êtres vivants là, en général.
La table citoyenne Littoral Est doit rencontrer cette semaine la direction du port de Québec pour aborder, entre autres, le projet de QSL. Pour rappel, en novembre dernier, une pétition contre le projet a été signée par plus de 1000 personnes. Alisa Netta pour IJL à Québec.
Eh bien, il y en avait de l'ambiance et du monde le 5 avril dernier dans le gymnase du collège Louis Riel, où la Fondation des parents de la francophonie manitobaine a célébré l'Aïd. Près de 200 membres de la communauté musulmane, mais pas seulement, étaient présents. L'Aïd est célébré deux fois l'an par les musulmans. La première, l'Aïd al-Fitr, marque la rupture du jeûne. Notre journaliste Gaël Mpoyo s'y est faufilé. Il y avait plus d'un prétexte pour y être, entre maîtres additionnels, sourire d'enfants et musique, d'autant que pour les musulmans, célébrer l'Aïd seul n'a pas de sens.
Ce samedi 5 avril, le gymnase du collège Louis Riel s'est transformé en un lieu vibrant de sourires, de partage et de fraternité. À l'initiative de la Fédération des parents de la francophonie manitobaine, une célébration communautaire de l'Aïd a réuni des dizaines de familles venues de tous horizons. L'événement, organisé dans le cadre du projet AMI, visait à créer un espace de rencontre, de joie et d'inclusion pour marquer cette fête importante du calendrier musulman.
D'abord, notre organisme célèbre tout au long de l'année diverses fêtes. Et comme la communauté franco-manitobaine musulmane grandit, ça faisait du sens de rassembler autour de cette fête pour apprendre à se connaître et puis donner l'occasion aux familles de célébrer aussi.
Pour Katiba Alouche, coordonnatrice du projet AMI à la Fédération de parents de la francophonie manitobaine, il est essentiel de créer des occasions où la culture, la foi et les sentiments d'appartenance peuvent s'exprimer librement.
Ça s'appelle comme le potluck des familles pour l'Aïd. Donc les familles ramènent leur collation préférée pour la partager. Chaque région le célèbre différemment et ils ont quelque chose de particulier, des collations particulières pour ce jour-là. C'est la famille multiculturelle, mais rassemblée sous la bannière de la francophonie.
Et c'est exactement ce qui s'est passé. Rires d'enfants, mets traditionnels, musique festive, activités culturelles et moments de prière ont rythmé cette journée. Jemina, une mère originaire d'Afrique du Nord, ne cache pas sa joie.
Oh, très 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 content d'être avec la communauté, avec les musulmans. Bonne fête à tout le monde, à tous les musulmans. On adore parce qu'en fait on est tous seuls ici, alors on aime bien être avec la communauté pour se sentir comme quoi on a bien fêté l'Aïd ensemble.
Le plus jeune aussi avait le cœur en fête. Amélie a 6 ans, les yeux pétillants confie, je suis contente de fêter l'Aïd avec mes amis.
Je m'appelle Amélia, je suis venue ici pour fêter l'Aïd. Ça signifie pour l'Aïd. Pour moi, je suis venue là pour m'amuser avec mes amis.
À ses côtés, Anna Aknouch et Elena parlent d'une fête où on partage, et surtout avec ceux qui ont moins que nous.
Je m'appelle Anna Aknouch, je fête l'Aïd. L'Aïd est une fête traditionnelle que nous célébrons pour finir le ramadan. Le ramadan signifie aussi pour rendre hommage aux personnes qui n'ont pas de nourriture. Alors nous avons beaucoup d'activités, on s'amuse bien. Il y a plusieurs personnes que je connais ici aussi. Et on s'amuse bien, il y a beaucoup d'activités, on joue et tout.
Je m'appelle Elena.
Eid signifie que nous faisons la fête, qu'on a de la nourriture. Et la Eid, ça veut aussi, c'est pour quand on honore les pauvres qui n'ont pas d'argent chaque jour. Et on joue avec les amis.
Pour Mohamed Madi Amazouz, venu d'Algérie, célébrer la Eid en famille est une valeur fondamentale.
Le Ramadan est une période qu'on passe généralement en famille, donc il est logique aussi que la fête en soi, on la fête aussi avec nos familles. Et puis comme on est aussi immigrants, c'est aussi un moment pour nous de nous retrouver tous ensemble dans notre communauté.
Même sentiment chez Mariam Kawa, elle aussi d'origine algérienne.
Je suis nouvelle arrivante au Manitoba. Nous avons le plaisir de partager notre joie avec la communauté et faire intégrer nos enfants dans ces traditions, dans ces coutumes, les faire participer. C'est très important pour nous de léguer cet héritage et nous sommes très contents de nous retrouver tous ensemble et tous les enfants et toutes les familles ensemble.
Sana, venue du Maroc, ajoute quant à elle que cet événement l'a permis de rencontrer des membres de la communauté qu'elle ne connaissait pas.
On est un peu isolés, dépaysés et on a besoin d'être ensemble un peu de temps à autre, surtout en ce qui concerne les célébrations et qui font partie de notre culture.
La célébration de l'Aïd par la Fédération des parents de la francophonie manitobaine a su réunir les générations, les cultures et les cœurs. Elle témoigne de l'importance de créer des espaces inclusifs pour que chacun puisse vivre ses traditions dans la dignité et le respect. Et comme l'a dit si bien Jemina en souriant, en tenant la main de son enfant, l'Aïd, c'est encore plus beau quand on le fait ensemble.
Bonne fête à tout le monde, à tous les musulmans.
Winnipeg, Gaël Pouillou, pour EGL.
Vous êtes à l'antenne de Point de vue. Écoutez tous nos reportages sur fréquenceinfo.ca.
La Fédération de la jeunesse canadienne-française lance sa plateforme électorale intitulée « Par et pour ». Cette plateforme est le fruit d'une vaste consultation pancanadienne portée par des jeunes de 14 à 25 ans partout au pays. La plateforme met en lumière leurs aspirations en matière d'éducation, d'économie et de leadership éthique. C'est un appel clair aux décideurs politiques en vue du scrutin fédéral du 28 avril 2025, note Madeleine Déniaud, vice-présidente de la Fédération de la jeunesse canadienne-française. Les précisions de Gabriel Poulin à Ottawa.
Après des mois de consultations pancanadiennes, de tables rondes, de sondages et d'écoutes actives, les jeunes d'expression française ont parlé. La Fédération de la jeunesse canadienne-française, la FJCF, a dévoilé sa plateforme « Par et pour la jeunesse » en vue des élections fédérales de 2025, une initiative qui met en lumière les priorités des jeunes d'expression française au Canada. Pour Madeleine Déniaud, vice-présidente de la FJCF, c'est un appel clair aux décideurs politiques pour un avenir éthique, équitable et durable.
La jeunesse d'expression française au Canada fait face à des défis majeurs comme le logement, l'éducation, l'emploi, la justice sociale. Et avec les élections fédérales en cours, il est crucial que les jeunes soient au cœur des débats politiques. Et donc, nous voulons que les partis politiques s'engagent à répondre aux préoccupations de la jeunesse et plus particulièrement la jeunesse d'expression française.
Par et pour les jeunes fonctionne avec une gouvernance composée de membres de 14 à 25 ans qui représentent les intérêts des jeunes de partout au pays. La plateforme s'articule autour de trois axes majeurs, l'éducation, l'économie et le leadership éthique. Pour chacune de ces thématiques, la jeunesse a formulé une série de propositions avec l'objectif de mettre ces enjeux à l'avant-plan des débats publics dans le cadre de l'élection fédérale.
Les demandes qu'on a mises dans la plateforme ne sont pas des demandes irréalistes. Ça peut sembler peut-être ambitieux pour des jeunes, mais c'est vraiment des priorités réalistes pour assurer un avenir équitable pour les jeunes. Donc, on a illustré la création d'un ministère de la jeunesse. On aimerait aussi un soutien aux médias francophones et un renforcement du filet social canadien. Le deuxième axe, c'est l'économie accessible et inclusive. Donc, vraiment des mesures pour le logement abordable, ainsi qu'une bonification du CELIAP et l'amélioration de la stratégie emploi et compétences jeunesse. Et puis, le troisième axe qu'on a élaboré, c'est l'éducation et santé mentale. Donc, l'abolition des intérêts sur les prêts étudiants, parce que souvent, les étudiants et la santé mentale vont main en main.
Lors des dernières élections fédérales, le taux de vote des 18 à 24 ans était inférieur à la moyenne nationale. Malgré l'importance des enjeux, la participation électorale des jeunes demeure un défi, soutient Madeleine Daigneault.
Je pense que surtout quand on est jeune, quand c'est notre première élection, qu'on est capable de voter, surtout au niveau fédéral, des fois ça peut être intimidant, c'est pas trop sûr. La plateforme Paris pour les jeunes donne cet outil-là pour voir comment leur préoccupation peut s'aligner avec des partis politiques. Ça donne une base pour aller voir leurs candidats dans leur circonscription. Puis aussi, ça encourage aux jeunes que votre voix compte, que c'est dans cet engagement politique que nous pourrons influencer des décisions pour un avenir meilleur où les enjeux des jeunes sont pris en compte. Et donc, c'est aussi un outil pour encourager aux jeunes de s'engager, de poser des questions aux candidats et de faire entendre vos priorités vraiment aussi.
Gabrielle Poulin, IJL Ottawa.
Des questions, commentaires ou suggestions? Écrivez-nous radio@frequenceinfo.ca, radio@frequenceinfo.ca.
Les obsèques de la romancière et dramaturge acadienne Antonine Maillet seront célébrées le samedi 12 avril à la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption de Moncton. L'auteur nous a quittés le 17 février dernier à l'âge de 95 ans. Les Acadiens pourront ainsi lui rendre un dernier hommage. Parmi eux, le Français Jean Dalaporta, qu'il a rencontré par hasard en France dans les années 90 à Aix-en-Provence. Il a aussi croisé le chemin de notre journaliste Vincent Lavoie à Miramichi. Michi, clin d'œil sur ces anecdotes.
Je suis arrivé à Aix-en-Provence où il y avait un événement culturel sur l'Acadie. Alors, ça a piqué ma curiosité et je suis allé voir. Et lorsque je suis rentré dans le bâtiment, qui j'ai vu s'installer sur un banc, Antonine Maillet, et qui s'apprêtait à prendre la parole pour un colloque. Alors, je me suis approché d'elle et je lui ai dit « Madame, je connais très bien votre pays, puisque j'y habite depuis 10 ans. » Et elle m'a dit « Ah bon ?» Si vous voulez, après votre intervention, après votre conférence, je vous ferai faire un tour dans ma voiture, un tour de la Provence. » Elle m'a dit « Bah, on verra. » Et elle a donné son allocution. Et à la fin... Le comité d'accueil a proposé à Antonine Maillet un café, probablement formel, et elle a dit avec un peu d'hésitation, écoutez, il y a ce jeune homme qui me propose de faire un tour dans la Provence, je vais partir avec lui. Et on a fait des routes de campagne autour d'Aix. À un moment donné, je me souviens m'être arrêté dans un virage pour lui faire ramasser du thym. Alors, dans la voiture, on a eu des conversations extraordinaires. Elle a raconté toutes sortes d'événements. D'ailleurs, l'un d'eux, c'était son apparition à Apostrophe, où elle était parmi des grammairiens de haut nom. Et c'est l'émission s'appelait Acadienne et Académicien. Et elle se demandait, mais qu'est-ce que je vais me faire ratatiner là-dedans? Au contraire, elle a eu la parole tout le temps, parce que ce qu'elle disait était tellement merveilleux, enchanté, et que ça plaisait à Bernard Pivot, qu'elle retrouve là-haut.
Retrouvez cette longue conversation savoureuse de Vincent et Jean Dalaporta sur fréquenceinfo.ca. Alors, on doit filer, c'est tout pour nous. Merci à nos journalistes Gaël Mpoyo, Alice Zanetta, Frédéric Lévesque, Gabriel Poulain et Vincent Lavoie. Point de vue vous est présenté par le Fonds canadien de la radio communautaire. Julia Chénu, rédactrice nationale. Boris Chassagne à l'animation et à la réalisation qui vous dit merci d'être là. Ciao!
Ici Vincent Lavoie à Miramichi, au Nouveau-Brunswick. Vous écoutez Point de vue.